Michel Espard, bonjour. Vous avez vécu longtemps dans la fameuse cité des 4000. Vous êtes arrivé en 97 à Toulouse, mais bien avant, en début des années 70, vous avez habité donc à La Courneuve. Et vous avez surtout enseigné dans un collège à La Courneuve. Donc avec vous, on va essayer de voir quelle était l'ambiance à cette époque. On va essayer de faire une sorte de condensé, de résumé. Et puis on va essayer de comparer avec ce qui se passe maintenant et forcément avec les déclarations du ministre de l'Intérieur dans cette même cité des 4000. Alors eh bien, peut-être commencer par le début. Comment vous êtes arrivé à La Courneuve et quelle était l'ambiance à cette époque-là?
Comment je suis arrivé à La Courneuve? Eh bien, en fait, je ne vivais pas dans les 4000, mais je vivais au milieu d'eux. Alors, les auditeurs ne savent pas forcément ce que signifient les 4000, hein, parce que tout le monde utilise le terme, mais ça signifie en fait tout simplement 4000 appartements qui ont été construits dans les années 60, à la fin de la guerre d'Algérie, essentiellement au départ pour abriter les rapatriés d'Algérie. Hein. Ces terrains appartenaient à la ville de Paris. Et on arrivait d'ailleurs à ce moment-là à un paradoxe, parce que la ville de Paris possédait une grande surface des terrains de La Courneuve, décide d'y construire des HLM, hein, ou des appartements, qui était le grand luxe à ce moment-là d'ailleurs, hein, au moment de la construction. Bien. Et il destine des émigrés, des gens qui arrivent, si bien que la municipalité de La Courneuve a, en gros, un tiers de ses habitants qu'elle ne gère pas, dont elle n'a absolument pas le contrôle du tout. Hein. Alors, les 4000 se divisent en deux parties, ce qu'on appelle les 4000 nord, qui se situent dans la partie nord de La Courneuve, juste le contre le parc départemental de La Courneuve, et les 4000 sud, qui se dirigent vers Saint-Denis, vers le Stade de France, quoi. C'est pas très loin du Stade de France. Hein. À côté, il y a d'autres cités, bien entendu, les Francs-Moisins à Saint-Denis, les Cosmonautes à Saint-Denis. Moi, j'habitais entre ces deux blocs, dans une résidence, pas entre ces deux blocs, entre ces deux grands, vastes ensembles. J'habitais dans une résidence privée. Je suis arrivé là parce qu'il fallait que je me loge. Et j'ai acheté un appartement dans cette résidence. Voilà. Mais en fait, j'ai toujours habité la banlieue, hein, depuis toujours. Je suis né à Drancy, j'ai habité Le Bourget, Blanc-Mesnil, toutes ces villes dont on a entendu parler ces derniers temps.
Alors, j'imagine qu'à cette époque, de toute façon, effectivement, c'était des appartements de standing, un peu comme ce qu'on trouvait, en tout cas au Mirail, au début aussi des années 70, hein, des grands appartements très lumineux.
Avec une salle de bain, voilà, oui. Et construit à la va-vite. Construit à la va-vite et puis surtout, guerre d'entretien pendant des années et des années. Si bien que tout va se dégrader assez rapidement. À partir de ce moment-là, les gens qui habitent ces immeubles, ceux qui ont un peu les moyens, vont en partir pour aller dans une zone plus correcte ou acquérir une maison. C'est le grand rêve de tous les Français. Et ils vont être remplacés par des gens, des habitants avec moins de moyens, ordinairement des émigrés, assez rapidement, très rapidement, qui vont payer de moins en moins les charges. Et à partir de ce moment-là, comme dans tous les grands ensembles, le système est enclenché. On n'a pas de solution, d'autant plus que, hein, je rappelle, la Courneuve ne gérait pas ces ensembles. C'était la ville de Paris qui s'en foutait complètement, d'ailleurs. Hein. Voilà, la Courneuve a demandé ce que l'on a appelé la dévolution de ces immeubles. Alors, la dévolution, le jour où la ville de Paris a abandonné, parce que finalement, c'était une source continuelle de difficultés, au bout du compte, là, à ce moment-là, pour la ville de Paris, a abandonné ces ensembles, la municipalité de la Courneuve a intitulé ça « la fête de la dévolution ». Dévolution. Mais naturellement, tout le monde a cru à une erreur d'orthographe et rayait le D remplacé par un R parce que fête de la révolution, ça sonnait beaucoup mieux. Quoi. Bon, voilà, c'était la fête dans toute la Courneuve ce jour-là. Mais bon, la situation continue à se dégrader parce que la municipalité n'a pas les moyens de tout restaurer continuellement. Puis pendant longtemps, la municipalité aussi, il faut le dire, a soutenu les gens sur place, même lorsqu'ils ne payaient pas, même lorsqu'ils dégradaient, parce que c'était les paumés de la terre. Hein, je pourrais raconter tout à l'heure, après un temps de silence, deux ou trois anecdotes sur ce sujet. Après, la municipalité, finalement, acculée devant les dettes, devant l'impossibilité de gérer ces ensembles, a décidé, comme dans de très nombreux ensembles ensemble en France, mais je crois que la Courneuve a été un des premiers ensembles à faire sauter un immeuble. Là, j'avais commencé d'ailleurs mon métier d'enseignant juste à côté, dans l'école à côté. J'ai commencé comme instituteur. Hein. Et alors, le jour où cet immeuble a sauté, là, naturellement, toute la vie de la Courneuve s'est arrêtée. Dans le collège, il n'était pas question de travailler. Le collège était situé à 2 kilomètres. Mais tout le monde était dehors, tout le monde était dans les rues avoisinantes pour voir le nuage de poussière et le bruit de l'explosion. Voilà. Ça, à partir de ce moment-là, ça était quand même le début d'une rénovation de ces grands ensembles, cet grand ensemble des 4000, surtout au 4000 sud. 4000 nord, ça n'a guère changé.
Alors, vous avez évoqué votre profession de professeur. Alors, oui. C'était de la science physique. Comment se passait le contact avec les jeunes issus de ces quartiers?
Comment ça s'est passé? Il faut dire ça s'est passé, hein, parce que ça commence à être de l'histoire. Ce que je raconte, ça va être bientôt des souvenirs d'anciens combattants. Et bon, j'ai pu assister à une dégradation au cours des 20 ans qui sont écoulés. Hein. Il faut dire que le collège dans lequel j'ai enseigné pendant toutes ces années, le collège Poitzer, est un collège un petit peu à part, parce qu'il est à la limite de la zone d'habitation. À côté, il y a une zone industrielle. Enfin, il est un petit peu à l'écart, donc on pourrait dire protégé, à la différence d'autres collèges qui se situent beaucoup plus à l'intérieur de la ville. Hein. Bon, c'est une construction classique. On voit des collèges comme ça à travers toute la France. Mais bon, à l'entrée, il y a quelques pelouses, il y a une sculpture, quelques arbres, bien agréable, mettons le décor. Et surtout, j'ai toujours travaillé, sauf quelques intermèdes, avec une équipe de direction, hein, avec un principal adjoint, un conseiller d'éducation, qui étaient des personnes absolument remarquables. Nous étions également, nous, une équipe de professeurs, nous étions une dizaine, mettons, et nous y étions depuis X années. Sur place. Et le fait d'y être, d'être inscrit dans l'histoire du collège, nous donne un pouvoir considérable. Parce qu'on détient le passé, on connaît les parents, on connaît les familles, au bout de peu de temps, on connaît les frères aînés, on a vu la demi-douzaine de frères ou de sœurs défiler dans nos classes. Les grands se sont calmés un peu, se sont recyclés, ils ont cessé leurs conneries, et ça nous permet d'intervenir. Eux, ils sont conscients qu'il ne faut pas que leurs mouflets, leurs petits, fassent les cons. Et donc, on avait des contacts, j'ai eu des contacts, nous avions des contacts avec les parents comme cela, avec les frères. J'ai été parfois invité, d'ailleurs. Voilà. Donc, ce qui est fondamental pour tenir le choc dans ces banlieues, c'est une équipe qui tient la route et les profs qui tiennent la route. Tiens, une histoire. Une présence. Lorsqu'un collègue était nommé, par exemple, hein, il nous est arrivé de recevoir des collègues arrivant de la France qui avaient eu une éducation bourgeoise, aisée, tranquille, et pour qui d'être nommé à la Courneuve, parce que c'est toujours le cas. Hein, les jeunes débutants sont toujours nommés dans les quartiers extrêmement difficiles, comme ça. Bien, et quand ils arrivent, c'est un cauchemar total. Bien sûr, ils n'ont jamais vu des bars. Non, c'est au milieu des bars. Ils n'ont jamais vu dans une classe de 25 ou 30 où il y a 4 blancs ou 5 blancs les dernières années. Ce n'est pas forcément le cas au début. Mais dans ce cas-là, nous pouvions les aider. Il nous est arrivé de leur trouver des logements dans les 48 heures ou de les héberger, bien entendu. Et on pouvait dire aux gamins qui faisaient le con, tu n'y touches pas. Parce que si tu y touches à la prof, là, qui est toute jeune, là, toute mignonne et tout, c'est à moi que tu auras affaire. Voilà. Ça améliore considérablement l'ambiance. C'est à ce prix-là que ça fonctionne.
Oui, parce que là, effectivement, comme vous le dites, il y a toujours des nouveaux professeurs qui sont nommés. Parfois,
pas d'expérience.
Bon, ce qu'on dit, voilà, c'est qu'ils n'ont pas d'expérience.
Et pas de formation à l'UFM, qui est une catastrophe.
Et vous pensez justement qu'on ne prépare pas suffisamment ces professeurs à ce qu'ils vont rencontrer sur le terrain.
Absolument. Il faut une formation spécifique. Et une formation spécifique, ça ne s'acquiert pas entre quatre murs. Ça s'acquiert sur place. Il faudrait un tuteur pendant X mois et qui participe au cours, qui assiste, et le jeune enseignant assisterait au cours. Comment s'y prendre, comment faire. Il faut un cours sur les banlieues. Il faut un mode d'emploi. Si on ne connaît pas le mode d'emploi, c'est la catastrophe. Alors, je peux donner quelques mots sur le mode d'emploi. Quel est le mode d'emploi? Pas la violence. Surtout pas, jamais, hein, à la différence de ce qu'on entend à l'heure actuelle, jamais. Alors, la négociation, alors oui, oui, la négociation. L'humour, l'humour constant, la chasse continuelle, bon, la répartie constante, bon, au même niveau qu'eux. Hein, bien. Bon, moi, je savais le faire, mais bon, il y en a qui, de certains de mes collègues qui ne pratiquaient pas de cette manière, mais qui aussi, par leur tranquillité, leur calme, leur respect de l'autre, c'est fondamental, eh bien, étaient respectés des élèves et chez qui ça fonctionnait correctement, bien entendu. Alors, la négociation, oui, j'ai assisté à cela, une montée progressive de tout ça. Tout était remis en cause continuellement. Hein. La manière de faire cours, les notations, les contrôles. Je négociais avec mes élèves, maintenant je peux m'en rire. Bon, dites donc, là, il va y avoir un confin, il faudrait qu'on fasse un contrôle, là, il s'est écoulé un certain temps, là, bon, alors quel jour on peut choisir? Ah ben non, parce que ce jour-là, on a 6 heures de cours, bon. Ah, ce jour-là, non, ça marche pas, c'est une fête musulmane, là, on sera tous absents, tous. Un tiers de la classe. Le coup suivant, c'était une fête israélite. Bon, ils étaient aussi un quart ou un tiers absents. Bon, donc il fallait qu'on se mette d'accord sur un calendrier. Bon, mais je préférais infiniment ça, même si c'est laborieux, si c'est pénible, si c'est épuisant, mais c'est aussi instaurer une confiance, un climat de respect, et c'est ce qui fait aussi que tout fonctionne. Après, on peut faire court.
Alors, vous avez quitté ces 4000. En revanche, vous y retournez de temps en temps. Vous avez encore des contacts avec le collège dans lequel vous enseignez. Alors, ce que vous ont dit vos anciens collègues, c'est qu'il y avait plus de problèmes ou que ça avait encore changé?
Une fois de plus, je vais parler pour ce collège qui me semble quand même une exception. Et j'ai rencontré, la dernière fois que j'y suis allé, une équipe de direction impeccable. Alors, j'ai oublié ce détail, mais qui n'est pas du tout un détail. Une équipe d'entretien fantastique. Tout était réparé dans la foulée. Il n'y avait pas de graffiti dans le collège. Ça paraît incroyable ce que je raconte. Mais le collège n'était pas barbouillé. Hein, c'était propre partout, tout le temps. Et ce qui m'a frappé, c'est la diminution des groupes dans les classes. Là, c'était lié aux moyens supplémentaires dans les ZEP et tout. Il y a beaucoup moins d'élèves. Alors, il y avait un prof, j'ai vu en parcourant les couloirs du collège, un prof avec 12 ou 13 élèves, bon, c'était le calme total. Hein. Voilà. Et dans les couloirs, c'était le calme. Enfin. Certains m'ont dit que les collègues qui arrivaient mettaient là aussi de la bonne volonté, de l'énergie, et que ben, ça se passait bien. Hein. Par contre, je tiendrai à souligner un point, moi, juste les dernières années où je suis parti, et c'est ça le problème des banlieues aussi à l'heure actuelle, c'est que j'ai assisté les dernières années, les 4-5 dernières années, à l'arrivée d'élèves issus de pays où des émeutes, des coups d'État, des catastrophes naturelles, etc., avaient fait que les gens étaient partis avec une valise en carton, hein, ou les problèmes en Algérie. Hein. J'ai eu un père qui est arrivé menacé de mort par le fils, et il est arrivé avec sa valise en carton, puis de gosse, quoi, bon, voilà. Et déraciné de tout, perdu de tout. Hein. Comment inscrire un enfant de 13-14 ans qui arrive du bled, et comment l'inscrire dans un système scolaire comme ça, hein. Les dernières années, j'étais responsable d'un petit groupe d'élèves comme ça, dont certains étaient complètement non francophones. Hein. On les mettait dans une classe pour francophones où ils étaient censés apprendre le français en quelques mois. Ce qui est possible lorsqu'on est dans un état mental correct, ce qui est nettement plus compliqué quand on arrive complètement paumé, complètement déraciné, avec tous les problèmes de logement que ça comporte. Impossible de trouver un logement là, à l'heure actuelle. Trouver une paillasse, trouver 2 pièces pour 5. Hein. Voilà, j'avais des réponses comme ça de la mairie de Saint-Denis. Hein. Ben, je vais vous étonner, mais je n'ai rien à leur proposer. Voilà. Alors après, on dit aux gosses, il faut travailler, mon petit, c'est ton avenir. Bon, c'est épouvantablement difficile. Et ce qui explique aussi ce sentiment de révolte. Hein. On peut resituer ça dans un cadre beaucoup plus large aussi dans la Courneuve. Dans les années 70, le lycée, c'est des histoires d'anciens combattants, mais le lycée technique fonctionnait dans une ancienne savonnerie qui datait du début du siècle dernier, dans lequel un ouvrier de la CGT n'aurait pas été travaillé. Hein. Le lycée général fonctionnait dans des baraques en bois. Le style réfugié. Il a fallu 20 ans de combat pour obtenir un lycée en dur. Voilà le contexte. Hein. Et si on ne se battait pas, on n'avait rien. Hein. Mais à cette époque-là, on ne cramait pas les bagnoles. Bon.
Est-ce que le souci pour l'éducation nationale, donc vous parliez de ces immigrés qui arrivent comme ça, qui ne sont pas forcément francophones, qui ont besoin d'apprendre la langue, est-ce que c'est surtout une question de moyens financiers, ou est-ce que c'est aussi une question de formation, comme vous en parliez tout à l'heure, c'est-à-dire bien d'avoir des jeunes professeurs, mais qui sont encadrés par des personnes d'expérience?
Bon, il me semble que c'est beaucoup plus compliqué que cela. Hein. Il faut des moyens à l'enseignement, il faut des professeurs qualifiés, mais aussi il y a l'environnement. Quand on arrive dans les 4000, on y reste. C'est une prison. On n'envisage pas d'en sortir. C'est un univers de désespérance. Ça a changé. Les 4000 Sud ont beaucoup changé. Il y a des tours en moins. Enfin, non, il reste encore une longue barre. Le centre commercial vient d'être reconstruit. Là, il est tout neuf. Il n'a pas cramé là, dans les derniers événements. Hein. Bien. Mais c'est tout un univers. C'est toute la banlieue dans lequel il n'y a pas assez de moyens pour s'en sortir. Et même quand les élèves ont un peu d'argent, par exemple, ne sortent pas de cette banlieue. Ils ne sortent pas du pied de l'immeuble. Hein. Passer le bout de la rue, ça leur semble insurmontable, hein, le problème. Moi, il m'est arrivé de les emmener à Paris, par exemple. Ils m'ont jamais posé de problème, enfin, sauf une fois. Mais ils étaient heureux, mais ils n'envisageaient pas de le refaire seuls. Alors que c'était le but de mes trucs. Hein. Pour eux, tout est difficile, tout est tout le temps difficile, parce qu'ils vivent dans une désespérance, un univers architectural qui est faible, et ils ne voient pas d'issue. Quoi. Bon, c'est ça le problème. Donc, c'est tout un contexte, l'enseignement, mais aussi la vie qui entoure. Voilà, l'architecture, l'urbanisme, les moyens de transport, etc. Hein. Voilà. Mais sorti de là aussi, quand on les sort, après négociation, quand on sort, hein, ils ont très souvent, ces élèves, une conduite exemplaire qui stupéfie ceux chez qui l'on va. J'ai visité des centrales thermiques, j'ai visité une centrale nucléaire avec des... Je ne sais pas si c'est possible maintenant, une centrale nucléaire, il va falloir fournir X papiers authentiques, hein, de préférence. Mais bon, on a pu aller visiter ça, et à la grande stupéfaction des gens de l'EDF, là je pense à une des dernières, mes dernières visites, mais vous venez de la Courneuve, oui, on vient de la Courneuve, oui. Stupéfaction totale. Mais ils sont bien, ben oui, ils sont bien, oui, bien sûr. C'est ça aussi peut-être, donner une autre image de marque. On a expliqué les 4000 qui brûlent, les 4000, le gosse qui a été assassiné, enfin par une balle perdue, etc. J'ai jamais vu la moindre émission, moi, sur mon collège qui fonctionnait correctement. Jamais vu le moindre reportage.
Selon vous, même si c'est difficile en quelques mots, quel serait le signe fort politique au moins qui pourrait calmer les jeunes?
Des perspectives d'avenir, mettre le paquet, pas du saupoudrage comme on a fait depuis des années. Hein, on donnait des miettes. Il y avait un article du Monde, par exemple, les ZEP dont on a fait dont on a dit que monde et merveille, que ça allait résoudre les problèmes, ça n'a rien résolu. Parce qu'à l'heure actuelle, ce qui relève des ZEP, il y a je crois 20% des enfants qui relèvent des ZEP, c'est complètement ahurissant, parce qu'il n'y a pas 20% qui sont dans les difficultés extraordinaires. Donc il faut peut-être diminuer ce nombre-là, mais mettre le paquet sur les zones véritablement sensibles, véritablement en difficulté, et puis faire en sorte, l'expression favorite à l'heure actuelle du pouvoir, faire en sorte que les parents, les enfants, les enseignants de ces banlieue-là croit enfin au discours politique. On a eu trop de promesses pendant 107 ans et rien ne marchait. On oubliait sitôt après. Je souhaiterais, je désirerais que pour une fois on y croit et puis que ça fonctionne. Hein. Voilà. Et du respect, toujours.
Bien, Michel Lespart, je vous remercie pour tous ces souvenirs donc, des 4000 de la Courneuve où vous avez en tout cas été enseignant de sciences physiques pendant de longues années.
Et enseignant heureux, épuisé, mais heureux.